Radio J, la chronique pour la paix. Uzi Meyerson, bonjour.
Bonjour Lise.
Alors ce matin, nous avons un invité, il s'agit d'Uri Weber, sociologue et auteur du livre intitulé « La gauche, comme je la raconte à mes petits-enfants », le thème « La perspective des prochaines élections en Israël ».
Alors, est-ce que vous êtes là Uri Weber ?
Oui, je suis. Ah, est-ce que vous m'entendez bien ?
Oui, très bien, merci.
Oui.
Merci, Uri Weber.
On vous entend bien. Alors, bienvenue à notre antenne. Comme l'a dit Lise, vous venez de publier en hébreu un livre intitulé « La gauche expliquée à mes petits Vincent ». C'est ça ?
Oui, voilà. Exactement. Et en français, j'essaye de le titrer « La gauche israélienne expliquée à ma petite fille ».
D'accord. Alors moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi vous avez ressenti le besoin, vous qui vivez depuis 50 ans au kibboutz Yeriam, dans le Nord, de faire le point sur ce sujet qui est d'une manière si intimiste, en fait, hein, parler à ses petits-enfants. Est-ce que c'est la transmission d'un monde perdu ? Le sionisme de gauche, voie de disparition.
Écoutez, ce qui m'a poussé à cela, c'est surtout le fait qu'on en est à notre quatrième campagne électorale et chaque fois, on parle de la gauche et aussi bien de la droite de manière tellement superficielle, tellement pas sérieuse et en fin de compte, moi, je voulais un peu remettre tout cela en ordre et replacer la gauche dans son historique, aussi bien la gauche comme concept international, et notamment la gauche israélienne qui a créé le pays, en fait. C'est les gens, c'est les courants de gauche qui ont commencé réellement à construire, à baser les fondements de l'État d'Israël, bien avant sa création, et qui ont continué après sa création jusqu'aux années 70. Mmh. Et donc tout cela, je voulais le remettre en place. J'ai essayé de présenter les choses de manière assez équilibrée, assez objective, dans la mesure du possible. Et voilà, alors aussi bien apporter une définition à la gauche que à la droite, parce que aujourd'hui, la gauche en Israël est devenue presque une insulte. Être de gauche, les gens hésitent à se définir comme de gauche parce que gauche en Israël aujourd'hui, c'est être traître, c'est être universaliste et laisser de côté le judaïsme, etc., etc.
Élitiste.
Voilà, ça a été la raison de...
Alors ce sont les critiques, mais dans la réalité, Uri Weber, là vous définissez les critiques auxquelles les gens de gauche sont confrontés, mais dans la réalité, quelle est l'importance de la gauche israélienne aujourd'hui ?
Écoutez, la gauche, il y a toujours à peu près 30% de la population, 30-40% de la population qui soutient la gauche. La gauche, les partis de gauche, ça aussi je veux faire une différenciation là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a les partis de gauche et il y a toujours entre 30% de la population, ce sont les laïcs libéraux qui soutiennent ces partis, que ce soit aujourd'hui le parti de Lapid, qui lui-même n'est pas spécialement de gauche, mais disons que son électorat est fortement à gauche. Il y a le Parti travailliste qui renaît
avec Merav Mikhaeli.
Avec Merav Mikhaeli qui a repris un peu d'élan. Et il y a le Meretz qui est traditionnaliste, un parti de gauche. Mais il y a toujours 30%. Maintenant, le problème, c'est de savoir quel parti va réussir à réunir toutes ces voix. Et voilà. Mais pourquoi j'ai fait cette différenciation entre les partis et les opinions ? Parce que lorsqu'on fait des sondages, on s'aperçoit qu'une grande majorité de la société, de la population en Israël, a des positions de gauche, des positions social-démocrates, notamment au niveau des services sociaux, de l'économie, etc. Maintenant, ils ont des opinions social-démocrates, mais ils votent à droite pour des raisons beaucoup plus d'identité, de judaïsme, de rapport au judaïsme. Vous savez, lors de son investiture, le président Rivlin a déclaré qu'en Israël, c'est plus un seul peuple uni, mais quatre tribus se distinguent de plus en plus les unes des autres. Et il a mentionné les laïcs libéraux, les sionistes nationaux traditionnalistes, les arabes et les ultra-orthodoxes. Maintenant, ce qui s'avère, et c'est vérifié de plus en plus, c'est que ces quatre tribus ont un mode de vie parallèle. Ils ont un système d'éducation différent, ils habitent des quartiers différents, ils ont un mode de vie différent, ils ont des valeurs différentes, et ils peuvent passer toute leur vie sans se rencontrer presque. Et ce processus ne fait que progresser et s'amplifier. Maintenant, Netanyahou, il exploite cette division à fond, et il envenime les relations entre ces différentes tribus. Alors d'un côté, il accuse les laïcs libéraux d'être des traîtres à la nation, d'être dangereux pour le pays. D'un autre côté, il renforce ses relations avec les ultra-orthodoxes en leur versant une bonne part du budget et les dispensant des lois des règlements du confinement, ces dernièrement, ce qui était vraiment une tragédie, mais c'était sa politique. Et il a même essayé de diviser le rang du parti arabe, en faisant des procès, des promesses assez alléchantes à un des courants, malgré qu'il ait mené une politique anti-arabe continue depuis 20 ans. Et enfin, les sionistes religieux et traditionnalistes, qui représentent son principal soutien, c'est un soutien presque inconditionnel, bien que dernièrement, pour des différends personnels, une partie d'entre eux s'oppose à lui.
Alors justement, en fait, Uri Weber, vous venez d'énumérer un certain nombre de problèmes récurrents en Israël, hein, qui ne sont pas résolus et qui existent depuis pas mal d'années déjà. Est-ce que vous pensez que ces élections à la Knesset, qui ont lieu là très prochainement, en mars, pourraient être autre chose qu'une consultation pour ou contre Netanyahou ? Parce qu'on voit bien qu'il y a les blocs qui sont en train de se constituer. Il y a des blocs de droite contre Netanyahou, des blocs de gauche contre Netanyahou. Et en fait, c'est une espèce de plébiscite qui est en train de se monter. Là, est-ce qu'on peut sortir de ça et parler des problèmes qui sont de plus en plus importants? On l'a bien vu au moment de la révolte des Haredim, les ultra-orthodoxes, hein, contre les mesures anti-Covid. Ça a beaucoup choqué beaucoup de gens. Est-ce que vous pensez que cette révolte, tout ça peut conduire à poser les problèmes différemment pendant les élections, ou est-ce que ça va être pour ou contre Bibi, encore une fois?
Non. Le problème, c'est pour ou contre Bibi, c'est un plébiscite, comme vous dites. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, Bibi, depuis qu'il a les procès sur le dos, il mène une politique qui prend uniquement en considération ses problèmes. Il accuse le système juridique, il accuse la police, il accuse tout le monde. Et en fin de compte, tout ce qui l'intéresse, c'est de sortir de cet embarras. Et maintenant, ce qui a changé ces derniers temps, c'est qu'une partie de la droite a rejoint le parti anti-Bibi, et c'est ça qui peut peut-être renverser la situation. Parce que vous voyez, Gideon Saar, qui était un des piliers du Likoud, a créé son propre parti en déclarant qu'il ne siégerait pas avec Bibi, avec Netanyahou. Et cela peut renverser la situation et permettre un changement de la politique israélienne, parce que une grande partie de la population est convaincue que tant que Bibi sera là, on ne peut pas s'occuper réellement des autres problèmes.
D'accord. Dites-moi, est-ce que vous imaginez un moment une alliance entre Meretz, Avoda, la gauche, Yesh Atid, le parti, on pourrait dire pas laïque mais séculier,
Et puis, Yesh Atid, ça veut dire il y a un avenir.
Ouais,
c'est important de le préciser.
Yesh Atid,
ouais. Oui, pour nos auditeurs.
Absolument. Et avec, justement, le nouveau parti de Gideon Saar, qui est un transfuge du Likoud. Et qui est très connu.
Toutes les déclarations qui ont été faites jusqu'à maintenant, de la gauche jusqu'à l'extrême droite, parce que Gideon Saar, c'est presque l'extrême droite, ont déclaré qu'ils seront prêts à faire alliance avec tous ceux qui s'opposent à Netanyahou pour le faire tomber. Alors, il peut y avoir une coalition du Meretz jusqu'à Gideon Saar, ça peut faire tomber Netanyahou. Et alors, les luttes politiques recommenceront après, mais sur d'autres bases. Alors là, ce sera réellement une lutte politique sur des objectifs sociaux, économiques, etc.
D'accord. Je vous posais une dernière question, parce qu'il nous reste vraiment une minute, si vous pouvez nous répondre très brièvement, Uri Weber. Est-ce que, je reviens là-dessus, est-ce que la révolte des ultra-orthodoxes a choqué les Israéliens? Est-ce que ça peut être inscrit dans les scores électoraux? Est-ce qu'il peut y avoir un changement là-dessus? Parce que je pense que, pas seulement en Israël, mais dans les communautés juives aussi, même les gens religieux ont été choqués par ça.
Oui, seulement ici, ça n'a pas tellement surpris.
Oui.
Mais ce qui est intéressant, notamment à ce sujet-là, c'est qu'une partie des jeunes orthodoxes commence à mettre en question l'autorité des rabbins. Et c'est ça qui peut représenter réellement un tournant, parce que ça peut avoir des conséquences à longue échéance. Et il y a une crise réelle du monde ultra-orthodoxe en Israël qui va s'amplifier, à mon avis, dans les années à venir.
D'accord. Et Gideon Saar, quelle est son attitude vis-à-vis du monde ultra-orthodoxe? Est-ce qu'il est plutôt du côté Lieberman ou est-ce qu'il est plutôt du côté Netanyahou qui comprend bien ses intérêts?
Oui, Gideon Saar, il garde des bonnes relations avec les ultra-orthodoxes parce qu'il veut laisser toutes les options ouvertes, mais il ne fait pas de déclarations trop déclarées en leur faveur. Il garde la porte ouverte.
D'accord.
Eh bien, Uri Weber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Uzi Meyerson également. Je rappelle, Uri Weber, que vous êtes sociologue et que vous êtes l'auteur du livre qui vient de paraître en hébreu, « La gauche, comme je la raconte, à mes petits-enfants, on attend la traduction en français ». Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Au revoir.
Au revoir, Lise. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à vous.